Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être de 15h à 16h en direct tous les jours, hein, Jimmy, du lundi au vendredi. Vous êtes à mes côtés aujourd'hui,
bonjour,
comme tous
Mélanie,
les jours.
Bonjour à tous.
Voilà,
à tous.
Merci d'être là, Jimmy. Allez, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier du jour sera consacré à une pathologie qui concerne beaucoup de monde. C'est la maladie articulaire la plus fréquente, à savoir l'arthrose. Plusieurs millions de Français sont touchés. Mais savez-vous vraiment ce qu'est cette pathologie, ce qui la cause? Nous parlerons également des traitements de l'arthrose et même un peu du futur, de la recherche qui est très active sur le sujet pour peut-être améliorer encore demain la prise en charge de ces patients. Alors pour nous éclairer sur tout cela, nous recevrons le professeur Francis Berenbaum. Il est chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Ensuite, dans notre chronique Les mots du quotidien, nous ferons un point sur cette première française, un carnet rose, une magnifique nouvelle en ces temps compliqués. Ce premier bébé qui est né vendredi d'une maman, elle-même née sans utérus, mais qui a pu lui donner le jour grâce à une prouesse médicale, une greffe de cet organe. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle répondra à une maman qui ne sait pas comment répondre elle-même à son fils de 11 ans, qui l'interroge sur un sujet assez gênant.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question de Charlie. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'ai une question. J'ai des symptômes de gastro depuis 3 jours et je voudrais savoir comment être sûr qu'il s'agisse vraiment d'une gastro. À vrai dire, j'ai pas vraiment envie de consulter un médecin pour ça. Je voudrais aussi savoir combien de temps ça dure à peu près et ce qui pourrait s'agir peut-être d'une intoxication. Je pense prendre des médicaments de type Smecta pour soulager. Est-ce que cela servirait vraiment à quelque chose? Merci pour votre réponse. Belle émission à tous. Bonne journée.
Merci beaucoup Charlie pour votre question. Moi, je vais me permettre quand même de juste en amorce, hein, vous dire de quand même conseiller de consulter votre médecin, même si Jimmy, bien sûr, va répondre d'un point de vue général. Alors Jimmy, d'abord, comment on fait la différence entre une gastro et une indigestion, puisque c'est sa question?
Alors là, c'est plutôt d'intoxication dont il parle. L'indigestion, c'est le fait de manger trop gras, trop sucré, trop salé, une grande quantité, et tout d'un coup, vous sentez un peu ballonné, vous
pas
avez
track, ouais.
Exactement du mal à digérer. En revanche, dans l'intoxication alimentaire, il y a souvent une cause commune. Vous avez d'autres personnes qui ont partagé un plat avec vous, et dans les heures qui vont suivre, vous allez avoir des douleurs abdominales, vomir assez rapidement, et les diarrhées vont survenir dès le lendemain. Alors que dans la gastro-entérite, il y a parfois un contexte d'épidémie. On sait qu'autour de soi, on a côtoyé quelqu'un avec des symptômes. Pour autant, il est possible de n'avoir aucun coupable dans l'entourage, puisque on sait que certains virus de la gastro-entérite, comme le norovirus, peuvent survivre 2 à 3 semaines sur des surfaces inertes. Donc une poignée de porte qui a été mal nettoyée, en tout cas pas nettoyée, peut vous rendre malade et donc on n'a pas toujours un coupable dans l'entourage.
D'accord. Est-ce qu'il faut systématiquement consulter un médecin après 3 jours, comme il le décrit là, de troubles intestinaux, puisque j'ai l'impression que c'est ce dont il souffre?
Alors, il y a plusieurs éléments. Le premier, en termes de diarrhée. Il faut consulter au-delà de 5 jours de diarrhée.
Bon, 3 jours, ça va encore.
On peut suspecter une surinfection. En revanche, 3 jours, ça peut être suffisant. Mais si vous avez du sang dans les selles, là, il faut consulter. Vous allez avoir une intoxication avec une bactérie. On appelle ça un syndrome dysentérique. Si jamais vous avez des diarrhées hydriques insupportables, on dit coléreformes, comme si vous avez le choléra, c'est-à-dire 10 à 15 par jour, ouais. Eh bien là, il faut consulter. Si jamais les vomissements sont incoercibles, qui vous empêchent de vous hydrater, là encore, il faut consulter. Et même chose pour la température. Dans la gastro-entérite, il y a peu ou pas de fièvre. Mais si vous avez 39-40 en plateau, c'est qu'il y a peut-être autre chose. Dernier élément, si vous êtes une personne fragile avec des comorbidités, là, il faut consulter un peu plus fréquemment que les autres.
Très bien. Rapidement, il dit, moi, je vais prendre du Smecta. Hein, c'est lui qui le dit. Est-ce que c'est la bonne solution ?
Ça n'a absolument fait aucune preuve d'une efficacité sur la réduction du nombre de jours, et en particulier chez les enfants, du nombre du débit des selles chez l'enfant. Il y a un seul médicament qui peut réduire un peu le débit des selles, c'est le Tiorfan, qu'on donne sur prescription médicale et qui existe désormais sous forme de sirop. Avant, il était sous forme de sachet, c'est assez imbuvable pour les enfants. En revanche, il faut s'hydrater, boire, régime riz, banane, carotte. Et bien souvent, ça passe comme ça.
Et si Charlie, ça dure bien sûr plus de 3 jours, n'hésitez pas. Si vous êtes à 3 jours, n'hésitez pas à consulter, évidemment. Merci Jimmy. On va écouter une autre question du jour, c'est celle de Valentine. On l'écoute.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie, merci de me recevoir aujourd'hui. Je vous appelle parce que j'ai un bébé de 3 mois que j'allaite encore et j'ai entendu dire qu'il fallait faire attention à bien hydrater le bébé. Du coup, je me pose des questions, est-ce qu'il faut que je lui donne de l'eau ou est-ce que l'allaitement ça suffit? Je me pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, je suis un peu inquiète forcément. Alors je vous remercie d'avance de votre réponse et continuez comme ça, j'aime beaucoup votre émission.
Merci beaucoup Valentine. Jimmy, un bébé allaité, est-ce qu'il est suffisamment hydraté ou est-ce qu'il faut compenser avec un petit peu d'eau.
Quand il s'agit d'un allaitement exclusif, il n'y a aucune raison de donner de l'eau en complément. Il faut savoir que la composition du lait de la maman évolue en fonction de la tétée, de l'heure à laquelle elle va donner le sein et de l'âge de l'enfant. Au tout début, c'est plutôt du liquide, c'est de l'eau que l'enfant va recevoir lorsqu'il prend le sein. Et puis le gras va arriver ensuite. Et donc, en aucun cas, il n'est nécessaire de rajouter de l'eau, en particulier dans cette période où il fait froid, à un nourrisson. En revanche, quand il fait très chaud, on peut donner le sein un peu plus à la demande, mais aucune raison particulière de donner de l'eau du robinet ou même une eau minérale.
D'accord. Et en été, pour le coup, parce que bon, ça, c'est vrai qu'à cette période, c'est peut-être moins important, mais si on avait un doute sur le fait que le bébé est suffisamment hydraté, soit en déshydratation, c'est quoi les signes d'un bébé qui est déshydraté ?
C'est un bébé qui ne fait pas pipi. Regardez les couches, à chaque fois que vous le changez, il faut qu'il y ait du pipi, donc il faut que la couche soit un peu pleine. C'est un enfant qui est tonique, qui est en bonne santé, et au moindre doute, on donne le sein à la demande. Dès qu'il le réclame, il va s'hydrater, il va boire, et puis quand on a l'impression qu'il va peut-être se déshydrater, il existe des solutions de réhydratation orale disponibles sans ordonnance à la pharmacie. Un sachet dans 200 ml d'eau et on prend ça en petite quantité à volonté.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Valentine qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Francis Berenbaum. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et donc aujourd'hui, vous allez nous aider à y voir un peu plus clair en ce qui concerne l'arthrose. D'abord, on va peut-être un peu contextualiser cette maladie chronique. Je crois que c'est l'une des plus fréquentes en France. Hein.
Ah oui, oui, ça touche... allez, on va dire 10% de la population a une arthrose avec douleur. Parce que je ne compte pas toutes les arthroses qu'on peut trouver sur une radio et qui font pas mal. Mais il y en a 10% de la population, vous voyez. Donc on estime que tout compris, à
millions,
peu près, on est à 10 millions.
Ouais, c'est ça, c'est énorme.
Donc c'est quand même énorme.
Hein. Et quand on parle d'arthrose, on a l'impression que c'est une maladie de la personne âgée, voilà. Et que ça va concerner qu'elle. Quel âge ont en moyenne les patients qui vont souffrir d'arthrose ?
Écoutez, on va dire que... Ce qu'on voit en consultation, c'est environ la soixantaine. Mmh. Alors, on ne va quand même pas dire que c'est des personnes
on
âgées.
On
n'est
pas des vieillards à 60 ans quand même. Hein. Non, bah c'est
exactement.
Jeune hein, aujourd'hui.
Et en plus, c'est une moyenne. Mais enfin, on voit des gens à 30 ans, 40 ans qui ont une arthrose. On peut expliquer pourquoi d'ailleurs. Mmh. Hein. On l'expliquera sans doute un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est, je ne vais pas dire que c'est de 7 à 77 ans. Mais en tout cas, clairement,
ce n'est pas
une maladie du vieux. C'est une maladie qui est liée à l'âge, oui.
C'est le facteur de risque le plus important.
C'est
l'âge,
un facteur
quand même,
de risque très important, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une maladie de la personne âgée. Ça, c'est très important de faire la différence.
Donc, ok, c'est quand même une maladie du vieillissement. Donc, avec le vieillissement de la population qui s'accélère et l'augmentation du surpoids aussi, c'est très important. On est d'accord que le nombre de patients arthrosiques n'est pas prêt de s'arranger. C'est une maladie qui va encore exploser, peut-être.
Ah, bah oui, oui. Il y a deux grands facteurs de risque. C'est l'âge, ça on est d'accord. Bon, ça, on va dire quelque chose,
on ne
peut pas y faire
grand-chose.
Mais l'autre facteur de risque majeur, c'est le surpoids. Et ça, pour le coup, on peut y faire quelque chose. En tout cas, on peut essayer. Et donc, c'est vraiment ces deux éléments qui vont en augmentant, malheureusement, on voit bien sur la planète, quel que soit le continent, on voit une augmentation, une épidémie d'obésité. Hein. C'est comme ça qu'on appelait ça avant la pandémie Covid. Nous, on parlait d'épidémie d'obésité. Ouais. Hein. Ça veut dire quand même ce que ça veut dire. Hein.
Et donc, une épidémie d'arthrose qui arrive
aussi. Et donc,
du
coup, derrière, l'épidémie d'arthrose.
On a connu deux confinements, un couvre-feu qui s'éternise et qui n'en finit plus. Est-ce que ça fait du bien à nos articulations d'être inactives, d'être à la maison, tranquille, on bouge un peu moins ? Est-ce qu'on souffre un peu moins ?
Eh bien, non. C'est exactement l'inverse. Et vraiment, maintenant, on a du recul et on s'en aperçoit. Déjà, en tant que médecin voyant des patients, on s'en rendait compte. Mais maintenant, on a même des données. Le fait de ne pas bouger va augmenter les douleurs. Il y a plein de raisons derrière ça qu'on peut expliquer, très scientifiques, etc. Mais le résultat est là. Quand on ne bouge pas, on a plus mal. Ça peut être contre-intuitif.
Et vous le voyez dans votre consultation déjà aujourd'hui, les effets de cette année là.
C'est très, très clair. C'est vraiment très clair. Les personnes... Alors, c'est vrai, pas uniquement pour l'arthrose du genou ou des hanches, c'est vrai aussi pour le mal de dos, il y a de l'arthrose également à ce niveau-là. Et tout le monde va vous le dire, le fait que vous soyez resté assis, que vous êtes devant votre écran toute la journée pour travailler, ou bien le fait de ne pas pouvoir aller faire son activité physique, son activité sportive, tout ça va faire en sorte qu'au bout du compte, on s'aperçoit que les gens ont plus de douleurs.
Donc la sédentarité, le surpoids, l'âge, on l'a dit, des gros facteurs de risque d'arthrose, mais je crois qu'il y a même des causes de l'arthrose aujourd'hui qu'on n'a pas encore identifiées. On ne sait pas tout sur cette maladie, pourtant, j'imagine que vous prenez en charge de l'arthrose depuis que vous avez commencé à travailler, non ?
Ah oui, et pour autant, on ne connaît pas encore tous les facteurs de risque d'arthrose. Alors on sait par exemple qu'au-delà de l'obésité, eh bien, des facteurs métaboliques, comme par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, probablement les anomalies du cholestérol, tout ça pourrait être également des facteurs de risque indépendants d'arthrose. C'est tout à fait étonnant, mais en tout cas, les données sont là. Et probablement, eh bien, il pourrait y avoir d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Ça, on le sait à partir d'études qui ont été faites sur des cadavres d'hommes préhistoriques.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Tout à fait étonnant. Oui. On peut voir l'arthrose, parce qu'on voit ça au niveau de l'os. Eh bien, même lorsqu'il n'y a pas le surpoids et quand c'est pour le même âge, quoi,
quand on mangeait des plantes et qu'on était des cueilleurs-chasseurs,
on s'aperçoit que depuis l'époque industrialisée, donc les années 2000, on va dire, on voit un doublement de l'apparition de l'arthrose. Indépendamment même du poids. Il y a d'autres éléments en plus du poids qui interviennent, qu'on ne connaît pas bien, mais qui sont liés à l'industrialisation.
Et quelle est la part de la génétique, de l'hérédité, si on a des parents qui ont eu beaucoup d'arthrose, mais comme c'est une maladie fréquente, est-ce que pour autant on a un risque supplémentaire par rapport à la population générale ?
Alors en fait, ça va dépendre de la localisation de l'arthrose. Par exemple, c'est vrai que l'arthrose des mains, il y a un facteur génétique, même si on ne le connaît pas encore aujourd'hui, même si on ne les connaît pas, les facteurs génétiques, qui est importante. En revanche, il y a d'autres localisations, probablement l'arthrose du genou, par exemple, est moins soumise à cet élément génétique, même si c'est possible qu'il y en ait un.
Est-ce que certains patients peuvent avoir de l'arthrose à un endroit précis de leur corps ? Je dis par exemple, vous avez cité le genou, prenons le genou, parce que, j'en sais rien, on a eu un accident de ski quand on était jeune. Est-ce que le fait d'avoir fragilisé par un traumatisme comme ça, une articulation en particulier, ça va la rendre plus fragile plus tard au risque d'arthrose ?
Alors, c'est le troisième facteur de risque d'arthrose, c'est le traumatisme. Vous avez 20 ans, 25 ans, vous avez un accident de ski, vous faites un ligament croisé, un ménisque, et à ce moment-là, il va y avoir, par exemple, on va retirer un bout de ménisque, il va y avoir une instabilité du genou qui va rester pendant pas mal de temps. Eh bien, dans les 10 ans qui suivent, une personne sur deux va développer de l'arthrose sur ce genou.
Donc même jeune, hein,
Donc vous voyez, vous avez 20 ans en accident de ski, vous faites l'arthrose, vous avez 30 ans. On n'est pas vieux quand même à 30 ans.
Non, bon, c'est sûr.
Je pense pas.
Non, effectivement, vous avez raison. Alors, on parle d'arthrose, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'arthrose ? C'est un os qui va vivre comment ? Qu'est-ce qui se passe dans l'articulation lorsqu'on est touché par cette maladie ?
Alors, pendant longtemps, l'arthrose, on a cru que c'était de l'usure. En gros, c'est un peu comme un pneu d'une voiture. Au bout d'un moment, ça s'use. Voilà. En fait, c'est pas ça. C'est une maladie globale de l'articulation qui ne va pas toucher uniquement le cartilage, qui va toucher également la membrane qui entoure nos articulations. On a une membrane, c'est une petite chambre fermée, une articulation, et dans cette membrane, c'est comme du papier peint sur un mur, c'est tapissé par une membrane qui va fabriquer un peu de liquide synovial, vous savez, ce lubrifiant pour l'articulation. Dans l'arthrose, on s'aperçoit qu'il y a un peu d'inflammation de cette membrane-là, et en plus, l'os sur lequel repose le cartilage, eh bien cet os-là également va être anormal et probablement en partie à l'origine des douleurs. Donc vous voyez, on se fait toujours l'idée arthrose égale maladie du cartilage. Non,
c'est bien plus global que ça.
Et d'ailleurs, on pense même qu'il y a encore d'autres tissus dans l'articulation
Là aussi, il y a encore plein de choses à découvrir. Et ça peut toucher, vous en avez déjà cité quelques-unes, des localisations, les genoux, les doigts, mais quelle autre partie ?
Par fréquence, c'est d'abord le genou. Ensuite, c'est les mains et les hanches. D'accord. Voilà, c'est les trois grosses localisations.
Mais on peut en avoir au cou, on peut en avoir...
Alors après, la colonne vertébrale, ça c'est clair qu'on peut en avoir aussi au niveau du cou et au rachis lombaire, c'est très fréquent. Mais on peut aussi en avoir au niveau des épaules, on peut en avoir aussi au niveau des gros orteils, vous savez, quand il y a la déformation, la lux valgus par exemple.
Les oignons.
Les oignons, tout ça, en fait c'est parce qu'il y a de l'arthrose à ce niveau-là bien souvent.
Donc on peut en avoir presque partout. Donc quand on a de l'arthrose, généraliste ou rhumatologue direct, ou est-ce que le généraliste déjà peut prendre en charge ?
Généraliste. Ouais. Bien évidemment, ça, c'est d'abord un problème qui doit être pris en charge par le généraliste.
Professeur Berenbaum, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur
du vélo.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. On entend parler de vélo, on va en parler, hein, on y arrive au vélo. Alors, donc c'est sans rendez-vous bien sûr, hein. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre invité en studio avec nous, c'est le professeur Francis Berenbaum. Je rappelle que vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et professeur, justement, on parle d'arthrose aujourd'hui. Un patient qui arrive dans votre cabinet, dans votre consultation, avec les symptômes qu'on a évoqués juste avant. Comment vous faites? Donc des douleurs aux doigts, aux genoux, aux hanches, j'en sais rien. Quel examen vous permet vraiment de confirmer ce diagnostic d'arthrose?
Bon, le diagnostic, il est vraiment facile à faire. Hein. Franchement, d'abord, il faut bien écouter la personne qui va vous dire que c'est surtout lorsqu'elle fait des efforts, lorsqu'elle bouge l'articulation en question, qu'en plus, ça, elle est un peu limitée dans les mouvements par rapport à ça.
Rouillée, c'est un peu le terme.
Oui, peu rouillée, voilà. Et puis, la nuit, globalement, ça se passe bien. Quoi. Je veux dire, le repos est plutôt positif. Alors, on va quand même confirmer le diagnostic par une simple radio. Hein. Malheureusement, je vois trop de patients qui viennent avec déjà l'IRM qui est faite et je leur demande, est-ce que vous pouvez me montrer la radio? Et dire, ça, j'ai pas la radio. Alors que j'ai encore eu l'exemple la semaine dernière d'une IRM qui était vraiment douteuse de hanche. Je demande la radio. Et alors là, c'était évident. Donc, c'est complémentaire. Faut pas croire que parce que c'est plus sophistiqué, ça va être mieux. Donc, l'arthrose, écoutez la personne.
Et la radio.
Et la radio.
Quand on fait le diagnostic d'arthrose, les patients le prennent un peu comme une fatalité puisqu'ils ont compris que c'est une maladie avec laquelle ils vont vivre et mourir puisqu'on n'a pas de traitement, en tout cas curatif. Comment est-ce qu'ils le prennent? Est-ce qu'ils sont abattus ou est-ce qu'ils disent « écoutez, c'est comme ça, hein, je suis vieux, je vieillis » ou...
D'abord, ils ne le prennent pas bien en général parce que même s'ils ne l'expriment pas, ils ont le sentiment d'avoir basculé dans une autre catégorie qui est la personne âgée.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est très, très mal vécu, en se disant, ça y est, quoi. Voilà.
Il n'y a pas de solution, vous ne pouvez pas le dire, je vais vous guérir.
Il y a eu un avant, il y a eu un après. Ouais. Ça, donc, il faut réussir à justement expliquer que ce n'est pas du tout le cas, ce que je vous ai expliqué au début de l'émission. Voilà. Ensuite, évidemment, on va leur dire, attendez, ce n'est pas une fatalité, on va essayer de faire des choses. Expliquez-moi comment vous êtes gêné avec cette arthrose dans votre vie quotidienne.
Ils ne vont pas mourir de leur arthrose.
Non, ils ne vont pas. Alors,
c'est pas une maladie mortelle. Je crois.
Il se trouve que quand vous avez une arthrose du genou, une arthrose de hanche qui fait que vous allez limiter votre marche, votre capacité à bouger, eh bien, c'est démontré, malheureusement, qu'il y a une augmentation de la mortalité de 50%.
Oui.
Et c'est une mortalité essentiellement cardiovasculaire. On peut le comprendre. Hein. Quand vous allez voir votre diabétologue, vous avez un diabète, qu'est-ce qu'il vous dit en premier? Bougez si vous voulez que vos médicaments y marchent. Quand vous allez voir votre cardiologue parce que vous avez eu un infarctus ou quoi, qu'est-ce qu'il va dire?
Bougez.
Bougez pour plus en faire. Oui, mais sauf que très souvent, dans cette population-là, les patients, ils disent, oui, d'accord, mais moi, j'ai mal au genou et je ne peux pas bouger. Donc si, malheureusement, ce n'est pas uniquement la fameuse formule qui dit, tant que j'ai mal, c'est que je suis encore en vie. Donc je ressens de la douleur.
On peut imaginer que du coup, que les personnes qui ont de l'arthrose du genou sévère qui arrivent à un stade de prothèse, les prothèses de genou, malheureusement certaines ont été reportées, annulées à cause du Covid, c'est un des dommages collatéraux. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une perte de chance et que du coup, comme on ne peut pas poser de prothèse, peut-être que notre espérance de vie va être réduite, alors que ça paraît tout bête, mais qu'une prothèse, ça ne semble pas urgent de la mettre.
Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, avec ce qui s'est passé, en particulier avec le premier confinement, où là vraiment tout a été arrêté, avec énormément d'opérations reportées. Évidemment, on a beaucoup parlé, et à très juste titre, du report de tous les traitements nécessaires pour la chirurgie de cancer. Mais pour la chirurgie des prothèses articulaires, là aussi, ça pose un problème. Et alors, on n'a pas les retombées réelles.
On ne peut pas mesurer ça encore.
C'est difficile à mesurer. Mais on va dire que ça a été quand même un peu limité dans le temps. Mais il ne faudrait pas que ça recommence.
Alors, vous nous l'avez dit, donc l'arthrose, ça ne se guérit pas, mais il y a des choses à faire, on y vient justement. Et pour ce faire, je crois que pour aller mieux, pour moins souffrir, pour ralentir la progression de cette maladie, parce que ça, c'est possible, un point très important, c'est de perdre du poids. C'est très efficace. Il y a des études vraiment qui ont montré qu'on améliore les gens en les faisant maigrir.
Ah oui. Alors, donc c'est le facteur de risque majeur. Hein. Si jamais il y a un surpoids, ce qui est démontré, c'est qu'il suffit de perdre 5% de son poids. Vous voyez, vous faites 100 kilos, vous perdez 5 kilos,
c'est pas énorme,
vous allez déjà améliorer vos douleurs. Donc, faut pas s'en faire une montagne. C'est-à-dire, faut pas se dire, on m'a demandé de perdre 20 kilos, j'y arriverai jamais. commençons petit, 5 kilos déjà, et vous allez déjà commencer à ressentir un bénéfice. Et en plus, ce bénéfice, il ne va pas être uniquement sur vos articulations.
Pour tout,
c'est
oui.
que bénéfice.
Comment est-ce qu'on explique ce lien entre la perte de poids et l'arthrose qui s'améliore? Est-ce qu'il y a, au-delà du facteur mécanique, on comprend que si vous êtes plus léger, bah, ça pèse moins lourd sur vos articulations. Est-ce qu'il se passe autre chose qui pourrait expliquer cela?
Oui, alors il se passe autre chose qu'on ne comprend pas encore très très bien. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le tissu gras, hein, lorsqu'il est en situation d'obésité, se met à produire de l'inflammation qui vont aller dans le sang, et ces produits de l'inflammation peuvent aller jusqu'aux articulations et accentuer l'inflammation des articulations. Donc, quand on perd du poids, on va réduire ce problème-là. Deuxième élément, lorsqu'on est en surpoids, on ressent plus la douleur. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant, que les personnes qui sont en surpoids pourront vous le dire. Eh bien, avec la prise de poids, j'ai un peu plus de douleur de tendinite, j'ai un peu plus de douleur un peu diffuse. Et ça, c'est le propre même de l'obésité, d'augmenter
le
seuil. Voilà.
Ouais.
En fait, vous baissez le seuil de votre douleur. Et donc, quand vous avez une arthrose, comme c'est une maladie de la douleur, enfin une maladie qui fait mal, eh bien, quand on est en plus en obésité ou en surpoids, on va plus ressentir la douleur. Donc, en perdant du poids, on va diminuer ce problème-là.
Bon, pour perdre du poids, évidemment, il y a des notions nutritionnelles. On n'a pas le temps de tout détailler aujourd'hui, mais on peut faire du sport pour maigrir un peu quand même. C'est déjà une chose importante. Vous l'avez dit, bouger, c'est important. Quel type d'activité physique recommander quand on a très mal au genou? Parce que, oui. évidemment, ces patients-là, vous dites, mais comment voulez-vous que je bouge? J'ai très mal, docteur.
Bon, alors, il y a deux situations. Il y a la situation où on est en pleine poussée. Allez dire à une personne qui est en pleine poussée, bon, allez hop,
c'est ça, parce
bouger.
Que c'est une maladie qui évolue par poussée. Oui, il y a des périodes un peu plus calmes.
Il y a souvent des poussées. Donc effectivement, en pleine poussée, on ne peut pas passer des messages comme ça, ça ne passe pas.
Bon, et en dehors des poussées,
normal.
Alors
en dehors du poussée, qui est quand même la situation la plus fréquente, en dehors des poussées, ce qu'on recommande, c'est le vélo, qui est vraiment un très bon sport, parce qu'il n'y a pas d'appui, si vous voulez, très, très fort. Donc ça,
le
vélo, c'est bien. La natation, c'est bien. Bon, les piscines, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais puis, il faut aimer aussi nager. Mais j'ai beaucoup de patients qui ont une arthrose, qui courent. Bon. Et ils s'aperçoivent que maintenant, à chaque fois qu'ils font leurs 10 km, eh bien, ils ont une douleur. Eh bien, leur dire, écoutez, progressivement, passez au vélo, eh bien, c'est quelque chose qui, vraiment, ils entendent bien.
Ouais,
ça passe
ça.
Bien,
parce qu'arrêter de courir quand on adore ça, c'est difficile. Voilà. Hein, mais le vélo,
ensuite,
c'est pas mal.
On peut pas, tout le monde n'est pas avec les mêmes goûts. Hein. Il y a tous les goûts dans la nature. Et moi, je préfère un patient qui continue son activité physique, quelle qu'elle soit, plutôt que d'aller lui dire « Ah ben non, ça, c'est un sport qui est interdit. » Il n'y a pas de sport interdit. Activité physique d'abord. Si vous aimez, faites d'abord du vélo ou de la natation ou de la marche à pied. Et sinon, bah, continuez quand même votre sport.
Donc le message, c'est de bouger. Est-ce que vous avez des patients qui, justement, lorsqu'ils se sont mis à bouger un peu plus, ont vu leur arthrose s'améliorer et peut-être consommer même un peu moins de médicaments?
Ah oui, clairement. C'est vraiment très, très net. Il y a une tendance, quand même, on peut le dire, une tendance, on se dit, premier réflexe, on va prescrire des médicaments. Hein, d'accord ? Eh bien, dans cette maladie, il faudrait que le premier réflexe soit qu'est-ce que je peux lui donner comme conseil qui ne soit pas des médicaments. Ensuite, bien sûr, les médicaments, ça va venir en plus pour aider, pour les pousser, etc. Mais pour le long cours, ce n'est pas les médicaments. Pour le long cours, c'est d'abord et avant tout la perte de poids s'il y a un surpoids, l'activité physique si jamais il n'y a pas d'activité physique.
Quid de la kiné, des séances de kiné, puisque c'est souvent prescrit à ces patients-là, c'est utile, c'est prouvé.
Alors, c'est très bien. La kiné, ça a l'avantage de faire reprendre une activité physique encadrée. Le risque, c'est, vous avez 50 ans, vous entendez ces messages comme là, je suis en train de donner sur Europe 1, et puis, ça y est, on y va. Demain matin, moi, je fais mon 10 km à pied, j'aurai fait mon activité physique, et là, le surlendemain, eh bien, on le voit en consultation. Il faut que ce soit, il faut que ce soit bien encadré, la reprise d'activité physique. Le kinésithérapeute, il est là pour ça.
Oui.
Il est là pour encadrer la reprise d'activité physique.
Il met le pied à l'étrier un peu. Hein,
il met le
ça.
Pied à l'étrier, il explique comment faire, il redonne confiance. Et puis ensuite, eh bien, il pourra continuer de façon autonome son activité physique.
Professeur Berenbaum, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes avec nous sur Europe 1 dans son rendez-vous et nous accompagne cet après-midi, c'est le professeur Francis Berenbaum. Je rappelle que vous êtes chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors il y a quelques minutes, professeur, on a parlé des bienfaits de l'activité physique. Mais bon, quand on a vraiment une grosse poussée, hein, des poussées, des douleurs, à un moment donné, il faut quand même bien prendre des médicaments. Certes, l'activité physique, ça fait du bien, mais parfois ça ne suffit pas. On a ce qu'il faut aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique pour soulager ces douleurs arthrosiques.
on a ce qu'il faut. On va dire qu'on a quelques médicaments qui soulagent la douleur. Quand on prend toutes les recommandations internationales des sociétés savantes, hein, on fait une moyenne. En gros, qu'est-ce qu'il en ressort ? Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, en essayant les INS, en essayant d'abord en gel, hein, localement. Ouais. Et si jamais ça ne suffit pas et qu'on n'a pas de problème qui contre-indique ce médicament, alors on peut les avoir également par voie orale. Donc les anti-inflammatoires. Le paracétamol,
bof-bof sur la
bof,
rose,
bof, hein. Parce que les études montrent très très peu d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, on ne sait jamais, hein, au niveau individuel, pourquoi pas. Mais voilà, en général, c'est quand même très peu efficace. Et puis, il y a les infiltrations de cortisone. Quand on est en poussée, et là, pour le coup, ça montre une bonne efficacité, c'est bien toléré. Et l'effet est assez limité dans le temps, on va dire quelques semaines.
Mais ça
permet de faire passer un cap. Voilà. Ouais. En dehors de ça, les autres vont poser problème, soit parce qu'ils ne sont pas efficaces, soit parce que, malheureusement, ils sont mal tolérés. Je pense au tramadol, aux opioïdes,
à la codéine, etc.
Il y a des risques de ce qu'on appelle le mésusage, c'est-à-dire pas bien les prendre, et des risques... Voilà. Donc, c'est en général très limité. Hein.
Donc, malheureusement, pas de traitement miracle. Mais que pensez-vous de ce qu'on peut voir, notamment sur Internet ou dans des pharmacies, avec les compléments alimentaires? On en voit certains avec de la bave d'escargot qui pourrait soigner l'arthrose. C'est de la poudre de perlimpinpin, je suppose.
Il faut savoir que quand on donne...
Ça ne doit pas pouvoir faire mal, la bave d'escargot, non?
On ne sait jamais. Ce n'est pas parce que c'est bio que pour autant... Il faut faire attention. Mais bon, il faut savoir que si vous donnez un placebo, donc c'est du sucre en poudre, à une personne qui a une douleur, d'arthrose ou d'autres causes d'ailleurs, presque une personne sur deux va quand même sentir un soulagement. Bon, donc... si vous avez de la bave d'escargot, par exemple.
Mais de la bonne, hein.
Et de la bonne, voilà. Avec le bon dosage. Hein. Si vous avez cette bave d'escargot et qu'au final, vous avez une personne sur deux qui se sent améliorée, vous allez dire waouh, c'est super, j'ai un très bon.
Pourquoi pas alors, non ?
Alors, pourquoi pas ? Tout est question de balance bénéfice-risque. Il faut savoir qu'en général, ça coûte très très cher, parce que plus c'est cher, sûrement que ça doit être plus efficace. Et donc, voilà. On ne peut pas aller recommander un traitement pour lequel on n'a pas de bonnes études. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas s'il y a des bonnes études avec une bonne balance bénéfice-risque. Voilà.
Dans les cas les plus graves, il faut opérer. Jimmy en a parlé un petit peu tout à l'heure, qu'il y avait peut-être eu des retards sur les poses de prothèses de hanches, de genoux, etc. ces derniers temps. On est satisfait quand même, en général, de ce type de traitement chirurgical ?
Alors, la prothèse de hanche, c'est très souvent très, très bien, très, très efficace. Hein. Ouais. Franchement, plus de 90%
des
gens. Non, il y a même plus d'une personne sur deux qui a même oublié la date de l'opération, tellement elle va mieux. Donc la prothèse de hanche, franchement, c'est très bien. La prothèse de genou, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien, parce qu'il y a des progrès dans le domaine. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la prothèse bien posée, hein, tout s'est bien passé, pas de complications post-opératoires, absolument tout. Il y a quand même 20% des patients qui vont continuer à avoir des douleurs qu'on ne comprend pas. Voilà. Et on n'est pas capable encore aujourd'hui de déterminer ces patients qui risquent de faire des douleurs après l'opération. Ça explique pourquoi, eh bien, malgré tout, on a encore besoin de faire des progrès dans le domaine des traitements de l'arthrose.
Un petit mot sur les chaussures. Est-ce que c'est important de trouver une bonne chaussure dans l'arthrose, même si on ne fait pas forcément le lien, en tout cas dans la population générale ?
Bon, alors, il y a l'histoire des semelles et l'histoire des chaussures. Les semelles... des personnes considèrent que ça leur fait du bien quand elles mettent certaines semelles. Pour l'arthrose du genou, là, je parle. Hein. Donc, pourquoi pas ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être publiée dans une des plus grandes revues scientifiques sur une comparaison entre chaussures rigides et chaussures souples. Les chaussures souples sans vraiment de semelles, vous voyez, et puis bien souples.
Type Converse. Hein,
voilà,
bon,
je n'osais pas le dire, mais enfin, type Converse. Et puis des chaussures plus rigides, vous voyez.
Bonne basket.
Bonne basket qui tient bien. Ouais. On pensait que la souple donnerait moins de douleur. C'était l'hypothèse de départ des auteurs, d'ailleurs. Et au final, ça a plutôt été les chaussures un peu plus rigides. Donc, aujourd'hui, février 2021, hein, parce que dans le domaine, ça peut évoluer, mais février 2021, la recommandation serait plutôt la chaussure qui maintient bien le pied.
Bon, bon conseil. Professeur, on va parler à présent un peu du futur, de la recherche. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur l'arthrose en France et ailleurs. Et vous, par exemple, vous faites partie de ceux qui cherchent très activement dans ce domaine, avec vos équipes, bien sûr, notamment sur le programme ADIPOA. C'est quoi, en quelques mots ?
Oui, alors... Je pense que tout le monde a entendu parler des cellules souches parce qu'on a l'impression que c'est miracle pour tout, hein, et que ça va remplacer tous nos organes et que voilà. Bon, Il se trouve que dans l'arthrose, eh bien, on parle beaucoup des cellules souches et pour autant, il n'y a pas vraiment de très bonnes études bien faites. La Commission européenne a soutenu et soutient actuellement une étude qui essaie de voir si l'injection de cellules souches dans une articulation arthrosique de genou eh bien, pouvait améliorer l'articulation, moins de douleur, ralentir les destructions. Donc ça, c'est une étude en cours. Je ne peux pas vous dire si c'est... Voilà, on inclut actuellement les patients pour ça, mais c'est une piste. Mais attention, hein, y a beaucoup de cliniques en particulier... Y a pas mal de cliniques...
Qui proposent déjà des choses qui ne sont pas validées.
Mais ce n'est pas validé.
D'accord. Vous nous parliez tout à l'heure d'une chose assez incroyable, la stimulation du nerf vague pour traiter une arthrose ou l'améliorer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que ça paraît...
C'est quoi le nerf vague?
Oui, bon, le nerf vague, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome. C'est quoi? C'est-à-dire que nos organes, alors même qu'on n'y pense pas, ils fonctionnent. Hein, ouais. Nos intestins, notre cœur, ils continuent de battre, etc. Alors qu'on n'est pas toujours en train de se dire, il faut que mon cœur y batte. Bon. Eh bien, il se trouve que ce nerf vague a également, quand on le stimule, des propriétés anti-inflammatoires. Ça, c'est vraiment bien démontré chez la souris. Voilà. Et... on est en train de tester actuellement, dans une arthrose particulièrement inflammatoire qui est l'arthrose des mains, eh bien, en mettant un petit appareil dans l'oreille, hein, comme un écouteur en fait, qui va stimuler, parce qu'il y a une petite branche du nerf vague dans l'oreille, c'est curieux mais c'est comme ça, eh bien, quand on met ce petit appareil, on va le stimuler 20 minutes par jour et on va voir si, au bout d'un certain nombre de semaines, eh bien, on diminue l'inflammation. C'est tout à fait... Alors, c'est non médicamenteux, encore une fois, on verra. Hein. On a déjà fait une petite étude pilote intéressante, mais là, c'est un essai national.
On n'a pas le temps de parler de toutes les pistes, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'autres. Vous participez à un protocole clinique avec des cellules souches directement injectées dans le disque. Il y a aussi, ça c'est peut-être plus proche de nous, il y a une biothérapie, donc des nouveaux médicaments qui vont arriver, qui permettront peut-être de soulager plus efficacement les douleurs de l'arthrose.
Oui, alors ça c'est effectivement, alors d'abord c'est une biothérapie, hein, donc c'est quelque chose de tout à fait innovant, et parce que c'est très ciblé, si vous voulez, sur une molécule de la douleur, qu'on appelle le NGF, peu importe. Mais en tout cas, cet anticorps anti-NGF est testé dans la douleur, mais d'ailleurs même plus que testé. Les tests sont déjà faits. Et maintenant, tout le dossier est à l'Agence américaine du médicament, également à l'Agence européenne du médicament, pour voir si les bénéfices sur les douleurs d'arthrose du genou ou de hanche sont supérieurs aux effets indésirables potentiels de ce médicament. Donc on verra, on devrait savoir cette année, probablement à l'été, c'est rapide, parce que là, vraiment, tout le dossier, donc c'est un nouvel espoir pour les douleurs d'arthrose.
Un dernier mot, vous voulez absolument parler dans deux secondes de la vaccination contre le Covid. Est-ce que vous avez un message à nous délivrer?
Oui, le message, c'est parce qu'actuellement, évidemment, on a beaucoup de questions par rapport à ça. On va dire que le vaccin, aujourd'hui, y compris pour les rhumatismes inflammatoires, donc là, je parle polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, etc., eh bien, c'est vraiment extrêmement utile. Donc, il faut vraiment encourager, y compris pour les patients ayant des maladies auto-immunes, la vaccination, parce qu'on sait que quand on a une maladie auto-immune, eh bien, on a un risque un peu plus important de faire une maladie, un Covid un peu plus sévère.
Très bien. Merci beaucoup, professeur Berenbaum, de nous avoir accompagnés.
Juste un dernier mot. La recherche dans le domaine, c'est la seule façon pour pouvoir avoir des... traitement efficace dans le domaine. Heureusement, on a quand même un certain soutien de la Fondation Arthritis, de la Société Française de Rhumatologie, mais on a vraiment besoin de soutien dans le domaine de la recherche sur ces maladies-là.
Merci. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous cet après-midi. Bonne continuation.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, on va parler d'une très bonne nouvelle dans cette émission. La médecine fait des prouesses et on vous en parle évidemment ici dans Sans Rendez-vous. On a besoin de bonnes nouvelles aussi, surtout en ce moment. Donc on va vous expliquer pourquoi la naissance d'une petite fille, vendredi dernier, peut donner du baume au cœur à de nombreuses femmes nées avec une anomalie pas si rare que ça. Jimmy, cette petite fille, c'est quasiment un miracle.
Oui, elle est venue au monde vendredi 12 février à l'hôpital Foch à Suresnes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Un petit bébé de 1,8 kg qui va très bien. Et le miracle, c'est que sa maman a pu l'avoir alors qu'elle-même est née sans utérus.
Alors, naître sans utérus, ça paraît comme ça, on se dit, oulala, mais c'est hyper rare. Pas tant que ça, c'est vraiment possible.
C'est une maladie qui est rare, mais pas si rare, puisque ça touche une femme sur 4500.
C'est quoi le nom du syndrome, Jimmy? Parce que je savais que vous alliez le dire, mais il est très difficile à dire et ça m'amuse pour une fois que vous bafouillez.
C'est le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kutzker-Oser.
Ah ouais, pas mal.
C'est pas terrible, mais on a compris que c'est une maladie rare et particulière. Et justement, les femmes concernées, eh bien, elles vont naître sans utérus. Et donc, pour l'instant, elles n'avaient comme seule option que l'adoption.
D'accord. Et donc, désormais, il y a cette option qui s'offre à elle, c'est la greffe d'utérus, une intervention donc, que la patiente dont on parle aujourd'hui a subie il y a 2 ans.
Hein. Exactement, c'était le 31 mars 2019. On a greffé à cette femme l'utérus de sa propre mère, elle-même ménopausée à 57 ans, qui allait bien. L'organe a été prélevé grâce à une chirurgie robotique, ça a été implanté chez la fille ensuite. Elle a dû attendre quelques mois pour être sûre que tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de rejet au niveau de la greffe. Et en 2020, grâce à une fécondation in vitro, elle a pu avoir cette grossesse qui a abouti à cette naissance de ce petit bébé qui se porte bien.
Super. Et donc, est-ce que c'est la première fois, Jimmy, qu'un bébé vient au monde après une greffe d'utérus?
Et non, les premiers, ce sont les Suédois en 2014. Et puis, on a vu ça aussi aux États-Unis, en Inde, au Brésil. Donc, ces bébés miracles, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, rejoignent la vingtaine d'enfants qui, au travers le monde, sont nés justement de cette prouesse médicale.
D'accord. Et donc, cette naissance, c'est vraiment un espoir pour toutes les femmes qui sont nées sans utérus, mais pas seulement, je crois. C'est une grossesse normale une fois que la greffe a réussi?
Alors, oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la greffe d'utérus, elle est destinée justement aux femmes qui vont naître sans utérus. Mais aussi celle à qui on va alors retirer l'utérus. Imaginez par exemple un cancer particulier, on vous retire l'utérus, eh bien il serait possible de justement vous donner cette greffe avec un traitement immunosuppresseur qui est un peu moins lourd qu'en règle générale pour permettre justement d'avoir une grossesse et de ne pas passer forcément par la case d'adoption.
Et cette femme qui vient d'avoir donc ce premier bébé de l'espoir, est-ce qu'elle peut espérer éventuellement, parce que bon, elle a toujours son utérus qui est greffé a priori, avoir un deuxième enfant peut-être?
Alors à l'heure actuelle, l'équipe médicale dit que c'est tout à fait envisageable. En revanche, il faut faire attention car c'est une greffe qui est provisoire, notamment à cause du traitement anti-rejet. Ça veut dire qu'elle pourra peut-être avoir un ou plusieurs autres enfants. En tout cas, à Suresnes, en Paris, on estime que pour l'instant, on va avoir l'autorisation d'en réaliser 10 au total. Et au CHU de Limoges, on a une autorisation pour 8 greffes. Et là encore, c'est sur soit des préleveurs qui vont être décédés. En tout cas, on est aux prémices de la technique et ça donne beaucoup d'espoir aux futures mamans.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cet éclairage donc sur cette prouesse médicale.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis c'est Catherine Blanc qui nous rejoint à l'instant en ligne. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question qui nous a été laissée par Cynthia sur notre répondeur. On l'écoute tout de suite.
Bonjour Catherine, je vous téléphone en fait une question. Mon fils de 11 ans est rentré de l'école tout à l'heure en me disant qu'un garçon un peu plus grand que lui lui avait dit « je vais t'enculer » au cours d'une bagarre. Et il ne sait pas du tout ce que ça veut dire et m'a demandé des explications. Alors, j'étais un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que je dois lui dire, selon vous?
Alors Catherine, c'est rigolo comme question. On a tous les parents qui nous écoutent, surtout quand ils rentrent au collège, moi j'ai l'impression qu'on peut être confronté à ce genre de situation. C'est légitime pour un enfant qui entend de toute façon, sans parler de la bagarre à proprement parler, mais qui entend un nouveau mot, un nouveau terme, il comprend plus ou moins quand même, je pense que c'est une insulte, mais qui demande à sa maman ce que ça veut dire, comment on réagit?
Alors, bien sûr que c'est légitime, je dirais même que c'est heureux, c'est souhaitable, c'est la preuve de la bonne communication de l'enfant avec ses parents et la confiance que l'enfant a dans ses parents. Ceci étant, évidemment, ça ne manque pas d'encombrer les parents qui sont tout d'un coup un peu prisonniers de la soudaineté du questionnement sur des sujets où il est difficile, surtout quand ce sont des mots qui sont relatifs à la sexualité, à la pratique de la sexualité pour un enfant qui est tout jeune, qui est en amont de tout ça et qui n'a peut-être déjà pas posé la question de comment on fait l'amour, comment on fait des bébés et qui tout d'un coup se retrouve confronté à des mots extrêmement violents.
Mais justement, comment est-ce qu'on réagit, Catherine? Parce que la réaction primaire qu'on pourrait avoir, ce serait d'être un peu fâché, lui dire non, on ne dit pas ça à la maison et puis d'éluder un peu le sujet. Est-ce qu'il faut désamorcer et vraiment poser comme un débat, expliquer voilà ce que c'est, pourquoi on ne le dit pas, où est-ce que tu as entendu, et pas être un peu à cran comme on pourrait l'être?
Bien sûr, mais vous avez raison, Jimmy, parce que c'est sûr que c'est notre déstabilisation qui fait souvent notre agressivité. Or, l'enfant vient déjà de subir l'agressivité d'un de ses copains à l'école. Le but, c'est pas que ce mot ne soit plus que l'occasion d'une soumission à l'agressivité de tous et celle des parents parce qu'eux-mêmes sont maladroits et en difficulté. Donc, je crois que la moindre des choses, quelle que soit la difficulté de certains mots ou la difficulté qui peut être la nôtre face à certains mots, c'est d'en expliquer le sens. Et expliquer le sens du mot.
Parce que ce mot en bip bip, il est, je crois, même peut-être dans le dictionnaire. Donc, que c'est difficile à expliquer quand même. Hein.
Bien sûr. Donc, effectivement, il est dans le dictionnaire, mais ça ne suffit pas de comprendre le mot. Il faut comprendre pourquoi, déjà, l'enfant agit comme ça. C'est normal que tu ne connaisses pas ce mot. D'ailleurs, celui qui te l'a dit ne le connaît peut-être pas non plus. Parce que, justement, le mot est sulfureux, parce qu'il est relatif à des choses qui parlent et de sexualité, et de fesses. Et donc, tout ça, évidemment, c'est certainement pour te déstabiliser. Donc, c'est une expression de pouvoir de l'autre qui a essayé de te mettre en situation d'infériorité par méconnaissance et aussi par ce que ça représente de projectif. Je t'envoie à la figure des mots cochons.
Pour te rabaisser, pour t'humilier, c'est ça aussi. Hein.
Exactement. Et évidemment qu'après, ça pose la question, et c'est pour ça que ça raconte notre malaise, c'est que la sexualité en elle-même n'est pas une humiliation. Pénétrer le corps de l'autre n'est pas une chose humiliante. Au contraire, ça rend compte d'une compétence pour celui qui pénètre et d'une compétence pour celui qui accueille. Sauf que là, c'est vraiment prendre par surprise l'autre. Donc, c'est, j'allais dire, symboliquement une sorte de viol de l'autre. On rentre dans une intimité quand l'autre ne s'y attend pas et n'en a pas le désir de cette intimité verbale. Et donc, vous voyez, on est dans la symbolisation d'une action de viol, en quelque sorte, parce qu'on vient bousculer la pensée d'un enfant, on vient le dominer. Et d'ailleurs, historiquement, ces mots-là, c'était des mots pour dire un garçon à un autre garçon, je te réduis à l'état de fille, où on disait d'ailleurs, on accusait d'homosexualité, on disait pédé, tafiole ou des choses comme ça, qui était une façon de soumettre l'autre. Or, la position est homosexuelle et féminine n'a rien d'une position de soumission à une domination, si ce n'est l'expression d'une domination anxieuse qui veut absolument être dans une sorte de toute puissance effrayante pour l'autre.
Une dernière petite question, Jimmy.
Donc, on désamorce par le dialogue et pas de punition envers l'enfant qui aura pu rapporter ce mot.
Non, voilà, et on lui dit simplement, comprends chérie que toi non plus, tu n'as pas à employer ce mot, maintenant que tu l'as compris, tout fier que tu es à comprendre le sens, il y a des tas d'autres petits garçons ou de petites filles qui n'en comprennent pas le sens, et ça ne se dit
pas. Et c'est totalement hors contexte, quoi, c'est ça.
Exactement, parce que d'abord, est-ce que tu es un petit garçon qui fait l'amour? Non. Est-ce que l'autre a le désir? Non. Il y a une histoire de respect, et c'est une façon d'introduire le terme, la notion de respect, y compris dans le verbe, comme on l'enseigne. On ne bouscule pas, on ne donne pas de coups à l'autre. Eh bien, c'est aussi vrai, les coups verbaux sont aussi violents que les coups physiques et c'est important d'en apprendre le sens.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter comme tous les après-midi. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Tu sais ce que j'aime chez vous Mélanie, c'est que vous êtes naturelle.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
Vous n'avez jamais rien fait.
Si, les oreilles.
On dit tout. Stéphane nous révélera d'ailleurs l'opération sur le geste épiculatif dans l'émission.
Et vous, l'allongement que vous avez subi. Elles ont fait de la chirurgie esthétique ou réparatrice. Suzanne Noël, grande femme extraordinaire qui réparait les gueules cassées. Marilyn Monroe, moi je ne savais pas, j'ai appris. On va vous le raconter dans l'émission. Eh bien, les opérations chirurgicales que les studios et son agent l'ont contrainte à effectuer. Et vous avez trouvé on connaît les poissons-chats. Je ne connaissais pas les femmes-chats.
Il y en a qu'une, hein. C'est la femme-chat, Jocelyne Wildenstein, icône de la jet-set new-yorkaise, qui, effectivement, pour garder l'amour de son mari, a décidé de faire de la chirurgie esthétique. Et comme il aimait les félins, il aimait bien les safaris, il aimait bien les big cats, et bien, elle a décidé de ressembler à un chat. Et le pire, c'est que c'est réussi.
Mais sauf qu'il l'a quitté à ce moment-là.
Oui, quand il
la femme chat, je trouve ça assez effrayant. Mais en tout cas, j'ai envie de savoir de combien ça s'est allongé chez vous, parce qu'apparemment, il y a une histoire d'allongement.
Restez avec nous, vous aurez peut-être la réponse.
On reste là, bien sûr, sur Europe 1.